Ce matin, j'ai vraiment à cœur de partager autour du thème de la consécration. Et je vais partir sur la consécration, mais autrement. Je vais le prendre autrement, à partir d'un problème. Un problème qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Un problème auquel le prophète Élie était confronté. Le problème de l'idolâtrie. Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, que lorsque un employeur cherche quelqu'un pour engager, il fait toute une liste de profils. Et il sait, en faisant l'entretien d'embauche, il sait au bout d'un certain temps si la personne correspond vraiment ou pas à la tâche pour laquelle il veut l'engager. Il le sait, parce que c'est lui qui a établi les critères. Donc il sait tout de suite, en écoutant, il dit, ouais, cette personne, je peux l'engager, parce qu'il est bon pour le service. Tel autre, je préfère pas. Je vais vous donner juste une petite histoire. Ne vous moquez pas de moi. Mais voilà. Je cherchais du boulot à une époque de ma vie. J'ai vu une inscription comme quoi vous pouvez devenir chauffeur, vendeur des fruits. Vous voyez les fruits et légumes, les frais là, qu'on vend. Il y a une espèce de camionnette avec un frigo derrière et plein de poissons, machin comme ça. Et voilà. Et je me suis dit, ah ben pourquoi pas? Donc je suis allé postuler. Le gars a dit, monsieur, je veux vous voir. Très bien. On s'est rencontrés. Je me souviens, c'était du côté de Houdin, là-bas. Et puis, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec ce travail? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Je lui réponds, non, je ne sais pas du tout. Vous allez m'expliquer, mais je suis prêt à prendre tout boulot qui se présente. Bah, ok. Et il se met à m'expliquer comment on fait ce boulot-là, comment on vend. On a une liste de clientèle, et puis on doit se créer soi-même sa clientèle, etc., etc. Et puis il me dit, bon, écoutez, vous êtes toujours intéressé, qu'il me dit. Ben, je dis, ben oui. Il dit, bon, ben alors on va aller plus loin. Si vous êtes intéressé, sachez que moi, il me faut une garantie bancaire de 200 000 francs. C'était à l'époque, hein, pour les francs belges. Il me faut une garantie bancaire de 200 000 francs, donc l'équivalent de 5 000 euros à peu près, si tu m'emmènes une garantie bancaire. Comme ça, au moins, je sais que tu vas pas fuir avec mon camion. Bon, si jamais tu fuis avec mon camion, je sais comment me rattraper pour ma marchandise. Voilà. Alors, j'ai dit, ben oui, c'est faisable. Là, ce n'est plus, je ne le dis plus avec l'assurance, parce que l'argent, hein, je le dis avec la foi. Hein, parce que c'est, oui, c'est faisable, en me disant, je vais essayer de voir qui peut m'aider avec ça. Et puis, il dit, vous êtes sûr, monsieur? Je dis, ah, oui, je suis parfaitement sûr. Ok. Au moment où on s'en va, au moment où on veut s'en aller, il me serre la main. Il dit, monsieur, je vais vous dire la vérité. Vous ne reviendrez pas. Genre, mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Il dit, vous n'avez pas le profil de l'emploi. Ça n'ira pas pour vous, ce travail-là. Et il avait raison, hein. Il avait raison. Des mois après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais purée, donc j'allais avoir un camion, et me voilà en train de rouler en camion dans les villages, là, dans les rues des villages, en train de solliciter la vente des poissons, des trucs. Enfin, bon, voilà. Je me suis dit, c'est après que je dis à la réflexion, non, c'était pas vraiment le boulot pour moi. Mais lui le savait déjà, le monsieur. Dès la première minute qu'il m'a vu, il savait que c'était pas le bon gars. Pourquoi je donne cette illustration avant la prière? C'est pour dire que Dieu nous connaît. Il sait pour quel boulot nous sommes bons. Parfois on crie, Seigneur, je veux travailler pour toi, je veux œuvrer pour toi. Mais Dieu, il sait pourquoi. À quoi nous pouvons être engagés pour lui. Mais ce qui nous manque souvent, ce n'est pas la capacité, les compétences. Ce qui nous manque, c'est la disposition du cœur. C'est le désir profond de se mettre à son service selon ses règles à lui. C'est ce que j'appelle la consécration. C'est ce que j'appelle la consécration. Être un instrument prêt pour le service pour Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le fait que tu nous engages quelque part à œuvrer pour toi, à marcher avec toi, à vivre avec toi et à être des témoins pour ta gloire. Aussi, nous te demandons de nous conduire ce matin dans ta parole pour qu'à travers cette histoire avec Élie et les prophètes de Baal, nous puissions voir réellement à quelle réalité nous sommes appelés, Seigneur, dans nos vies. Et que cela nous mobilise pour l'avancement de ton royaume. Conduis-nous dans cette méditation de ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez cette histoire? On va donc nous amuser à parcourir un peu cette histoire. Donc c'est Élie face au prophète de Baal. 1 roi, chapitre 18. Alors, j'ai coupé l'histoire, Il faut prendre les 40 versets. Je me suis dit, je vais quand même vous ménager ce matin. Vous n'allez quand même pas souffrir avec moi en lisant les 40 versets. Quoique, ça me tente, mais enfin, bon, s'il y a le timing, il faut quand même respecter le temps. Donc, on va couper au milieu et on va partir à partir du verset 17 parce que l'action commence vraiment à être bien, bien engagée à partir du verset 17. 1 roi chapitre 18, du verset 17 au verset 40. À peine Achab reçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes et à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois. » sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui y répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et vous invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » mais il n'eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux en disant « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Et ils crièrent encore à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi ». Le peuple s'approcha de lui, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois ». Et il dit, faites une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur, leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez-les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison et il les égorgea. Un récit trash, un récit digne d'une histoire que tu regarderais bien assis avec des pop-corn en train de les manger et de regarder, waouh quoi. Mais il y a du boxon ici. Hein. Mais un récit qui est plus qu'un simple récit symbolique, qui est un récit de vie, un récit dans lequel on voit Dieu en action. On voit les hommes aussi. On voit comment les hommes agissent avec Dieu, agissent au nom de Dieu. Ce récit se passe à une époque particulière de la vie du peuple d'Israël. À l'époque, il y a deux royaumes. Et celui où il y a ce théâtre de confrontation, c'est le royaume d'Israël, qui est donc au nord et qui est donc dirigé par un roi qui s'appelle Akab. C'est le roi qui a la plus mauvaise cote de tous les rois d'Israël. C'est le plus mauvais roi dans tous les rois. Et c'est un roi qui non seulement va adorer un dieu étranger, Baal, mais il va même épouser une princesse étrangère, Jézabel, qui va devenir donc sa femme. Et Jézabel, elle est elle-même prêtresse de Baal. C'est vous montrer à quel point cet homme a vraiment été immergé dans l'idolâtrie. Il était complètement immergé dans l'idolâtrie. En face, il y a donc ce roi, mais en face aussi dans le royaume, il y a également un courageux prophète qui s'appelle Élie. Et cet homme est un homme remarquable. Je ne vais pas aujourd'hui parler d'Élie, mais si vous regardez dans les livres historiques, vous verrez que finalement, la tradition hébraïque considère que ce que nous appelons les livres historiques, il les considère comme les livres prophétiques. On les appelle les prophètes antérieurs. Pourquoi ? Juste à cause de la forte personnalité de Élie. Élie, c'est peut-être un des personnages le plus remarquable qui est... j'ai noté que c'est le troisième personnage biblique pour lequel il y a le plus de livres qui sont consacrés. C'est un personnage vraiment énorme. Et bon, bien sûr, ce matin, on ne va pas parler de ça. Mais on va juste voir ce qui se passe ce jour-là sur le mont Carmel. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Pourquoi il y a cette confrontation? Bien sûr, cette confrontation est due à la question de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est pas à vous que je vais donner la définition de ce que c'est que l'idolâtrie. Nous savons ce que c'est que l'idolâtrie. C'est le fait de mettre Dieu, mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu, lui donner plus d'importance ou une importance concurrente. Dans la tradition biblique, avec l'Ancien Testament, on voit que l'idolâtrie avant, quand on voit l'évolution avant les rois, l'idolâtrie avant, c'était le fait d'utiliser d'autres outils, d'autres dieux, comme représentation de Dieu. C'est comme ça que dans les 10 commandements, Dieu va dire, tu ne te feras pas de représentation que tu vas adorer. Tu ne te feras pas des images que tu vas adorer. Parce que c'était cette idée-là. Puis par la suite, l'idolâtrie a vraiment basculé dans le mauvais sens, puisque c'était carrément maintenant le fait de tourner le dos à Dieu et de se consacrer à une autre divinité, de laisser tomber Dieu. L'idolâtrie, c'est cela, c'est avoir Dieu, non plus comme l'unique Dieu, mais avoir d'autres dieux à côté de Dieu, ou d'avoir d'autres dieux simplement, sans le Dieu d'Israël. Élie va donc demander à Akab de convoquer une confrontation avec les prêtres, avec les prophètes de Baal. Et cette confrontation a comme enjeu le problème du péché. Le péché de l'idolâtrie, le péché du roi, le péché de tout le peuple. le péché de tout un peuple qui est en train de se tourner vers l'idolâtrie, vers d'autres dieux. L'idolâtrie est un terme qui parcourt toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, il est question de l'idolâtrie. C'est à cause de l'idolâtrie que Dieu condamne les nations qui entourent Israël. Vous le voyez dans le Pentateuque. Et demande qu'on les voie interdits, qu'on les détruise tous. C'est à cause de l'idolâtrie que Dieu va interdire tout contact par le mariage avec les autres nations. N'épousez pas les enfants, ne donnez pas vos enfants, à vos filles, à vos garçons, des gens de ces pays-là. Pourquoi ? De peur que, en vivant ensemble, ils les détournent de moi. Et c'est l'idolâtrie encore qui va faire l'objet de plusieurs discussions de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. La question des viandes sacrifiées aux idoles, par exemple. Le jugement des idolâtres, on verra quelques versets où nous voyons aussi que, quelque part, l'idolâtrie était aussi importante, était aussi là toujours en réalité. Évidemment, l'idolâtrie du passé et l'idolâtrie du présent, c'est deux choses différentes. Dans le contexte de ce texte, j'aimerais épingler que face à l'idolâtrie, Élie va procéder de deux manières. Et c'est là le cœur de mon message ce matin. C'est le cœur de ce que je vais apporter comme idée de la consécration. Face à l'idolâtrie du peuple, que fait Élie? Il fait deux choses. Tu peux remontrer le verset 21 et ensuite montrer le verset 40. Regardez, au verset 21, il les interpelle. Ah oui, non, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, quand il a terminé avec les prêtres de Baal. Donc, non, c'est pas le verset 21. Remonte 23, 24 par là, plus loin. Oui, voilà. Ah oui, tu remontes encore, si tu veux, merci. J'avais complètement capté un verset qui n'était pas juste. Voilà, à partir du verset 30, si tu veux bien, comme ça, tu remontes 30, voilà, très bien, on peut s'arrêter là. Excusez-moi, j'étais en train de faire autre chose peut-être quand j'ai retenu ce verset-là. Alors, regardez ce qu'Élie fait. Première chose, au verset 30, Élie va rétablir l'autel de l'Éternel. Et il le fait d'une manière déterminée. Il ne le fait pas n'importe comment. Il le fait selon une manière déterminée. Et vous allez voir que c'est très symbolique, cette façon de rétablir l'autel de Dieu. Il prend les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est le plan de Dieu depuis Abraham. Faire une nation. Une nation à partir de laquelle le message de Dieu va être connu à travers le monde. Israël qui lutte avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui combat avec Dieu. Et puis, voyez, il fait cet autel au nom de l'Éternel, et puis il nettoie, il arrange, il fait toute une présentation pour pouvoir offrir l'offrande. Première chose, Élie, que fait-il? Il commence d'abord par rétablir l'autel de Dieu. Et la deuxième chose qu'Élie va faire, c'est au verset 40, il va ordonner qu'on égorge tous les prêtres de Baal. Ok? Qu'on débarrasse complètement tout ce qui exprime, tous les moyens par lesquels cette idolâtrie fonctionne en Israël. Alors, nous n'allons pas aujourd'hui reprendre ça par rapport à l'Ancien Testament. Je voudrais juste rebondir dans le Nouveau Testament, dans notre réalité d'aujourd'hui. Nous avons là deux choses que Élie fait par rapport au rétablissement, par rapport au fait de combattre l'idolâtrie. Il fait deux choses. Il rétablit l'autel et il fait mourir les prophètes de Baal. Qu'est-ce que ces choses peuvent avoir aujourd'hui comme signification pour nous? Quel est l'intérêt de savoir ces choses-là aujourd'hui? Quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui de pouvoir aborder ces choses? Aujourd'hui, on n'a plus des statuettes, on n'a plus des images que nous adorons. Il n'y a plus des gens qui se promènent dans la rue où il n'y a plus de temples dédiés comme ça à des divinités. Et pourtant, l'idolâtrie existe encore. Peut-être plus sous la forme de divinités auxquelles on croit, etc. Mais l'idolâtrie existe aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'idoles aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'idoles. Je ne parle pas seulement des Indiens qui ont des vaches là-bas qu'ils considèrent comme sacrées. Ah bon, voilà. Moi, je trouve ça un peu particulier. Moi, la vache, je la mange. Mais bon, eux, ils la trouvent sacrée. Bon, chacun a sa formulation. Mais nous avons nos idoles. Nos idoles, vous le savez, nous vivons avec eux. Et une des idoles à laquelle Jésus fait surtout référence, c'est Mammon, l'argent. Hein, il dit on ne peut pas servir deux maîtres, parce qu'on ne peut pas aimer les deux en même temps, ce n'est pas possible. Mammon, c'est une divinité, c'est une idole aujourd'hui encore, pour nous les hommes. Le matérialisme en général, les hommes, les stars, les vedettes, le succès, l'argent. Notre société est une société profondément idolâtre. Vous savez, le culte de la personnalité, c'est une forme d'idolâtrie. Mais nous sommes constamment là-dedans. Et parce que je le vaux bien, L'Oréal, je suis beau. Et même si vous me trouvez moche, je suis quand même beau. C'est tout, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, la pub me le dit. J'avais un copain, il me disait, écoute Gaston, quand tu te payes une belle voiture, eh bien, tu sors dans une belle voiture, même si tu es le plus moche des hommes, tu deviens beau. Nous sommes une société profondément idolâtre. Nous vivons dans une société où nous avons le culte de la personnalité. Ce n'est pas seulement que nous aimons des choses plus que Dieu, notre argent, nos biens, nos femmes, nos moyens, etc. Pas seulement que nous aimons des choses plus que Dieu, mais nous aimons plus que Dieu. Nous sommes, à notre yeux, à nous, plus importants que Dieu. C'est ça notre société. L'humanisme, c'est quoi? N'est-ce pas que l'humanisme, c'est le fait de mettre Dieu, pardon, de mettre l'homme à la place de Dieu et de dire, ça sert à rien de t'intéresser à Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est faux, c'est mauvais, c'est de la contrainte, c'est méchant. C'est des menaces, c'est des chantages, des punitions. C'est pas bien, ça. Mais l'homme, quelle créature merveilleuse. Ah, tiens, ça, c'est la Bible qui le dit. Je change envie. Non. L'homme, il dit, mais moi, l'homme, je suis beau, je suis bien. Je dois m'occuper de moi. Et pas de Dieu. Société profondément idolâtre. Nous aimons flatter notre ego. Combien de fois les gens ne sont pas en conflit les uns contre les autres? Parce que simplement, tu m'as touché par mon ego. Je n'accepte pas ça. Je ne peux pas tolérer ça. Combien des États ne se font-ils pas des guerres entre eux parce que simplement, t'attendais, tu m'as insulté là, t'as brûlé mon drapeau, t'as osé brûler mon drapeau. Moi, une grande nation comme ça. Donc, nous sommes un peuple idolâtre. Est-ce que l'idolâtrie concerne-t-il un chrétien? Un vrai chrétien peut-il être menacé par l'idolâtrie? Ne me dites surtout pas non, hein. Ne dites surtout pas non, hein. Parce que oui, un vrai chrétien peut être menacé par l'idolâtrie. Parce que nous sommes dans une société où nous fonctionnons en interaction avec les gens. Et donc on court le risque d'être chaque fois confronté. Nous avons un devoir, une tâche personnelle, particulière, à toujours vérifier notre état, notre position. Sommes-nous toujours humbles? Ou bien, ça fait longtemps qu'on a oublié l'humilité. Je voudrais à ce sujet montrer que, effectivement, l'idolâtrie peut menacer aussi les vrais chrétiens. Regardez les avertissements des auteurs. Paul, 1 Corinthiens 10, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui les exhorte à faire attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement, comme je disais, le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu, mais c'est donner de l'importance peut-être à ce que je fais, à ce que je suis, parfois même à moi plus qu'à Dieu. Au verset 14, c'est encore Paul qui exhorte. Alors, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est un devoir, c'est une tâche que nous avons de fuir l'idolâtrie. Et puis, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 16, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, voyez, Baal, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tout dernier verset, 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Regardez ça. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça, c'est un verset, je serais content de prêcher sur ce verset, parce qu'il est très remarquable. Il est à la fin, c'est le tout dernier verset de la première lettre de Jean. Mais pourquoi termine-t-il avec ça, après avoir dit d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça? Parce que c'est une chose très importante. Mais revenons à la prévention, rétablir l'autel. Que peut vouloir dire rétablir l'autel? L'autel, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait deux autels. Un autel dans les parvis et un autel dans le lieu saint. Alors l'autel dans le parvis servait à présenter les sacrifices. Et l'autel à l'intérieur, c'était l'autel pour les parfums, pour l'encens, pour faire brûler l'encens. Donc l'autel représente à la fois le lieu du sacrifice, donc le cœur du sanctuaire. C'est aussi le lieu du culte, c'est-à-dire là où l'homme rencontre Dieu. C'est là aussi où Dieu est favorable à l'homme. C'est ça l'autel. Lorsque, en Israël, on renverse l'autel, c'est une catastrophe pour eux. Parce qu'il n'y a plus de communication avec Dieu. Il n'y a plus de possibilité d'être en connexion avec Dieu. Rétablir l'autel. Rétablir l'autel, ça voudrait dire remettre ma vie dans l'ordre à travers le culte personnel, à travers mon engagement personnel. Si nous voulons vaincre l'idolâtrie ou nous voulons vaincre tout autre péché dans notre vie, nous devons veiller à notre culte personnel, veiller à notre relation avec Dieu. La négligence de notre culte personnel, ou le manque de discipline dans notre vie, dans notre culte personnel. Le fait de dire, ok, je prierai demain, je ne sais pas prier ce soir, je prierai après-demain, je ne sais pas prier après-demain, je prierai quand j'y penserai. Je lirai ma Bible, je la lirai quoi. Le jour s'en prendra quoi. Le manque de discipline est une manière de faire tomber notre autel. Et donc, la connexion avec Dieu n'est plus possible. Ou ça devient une connexion brouillée, une connexion provisoire, temporaire, ou ce n'est pas tout le temps, c'est juste un moment. Veillons à ce que nous rétablissions l'autel. Et rétablir l'autel, vous avez vu, je l'ai dit, Élie va le rétablir dans l'ordre. Chaque fois que nous sommes tombés dans le péché, chaque fois que nous constatons que nous avons dévié, Il ne s'agit pas de rétablir l'autel n'importe comment. Élie l'a fait dans l'ordre du projet de Dieu. Aujourd'hui, si je veux rebâtir l'autel dans ma vie, je veux me remettre sur le chemin avec le Seigneur, je commence avec le point de départ. Le point de départ, c'est la repentance. C'est la reconnaissance que je suis pécheur, que ce que j'ai fait a affecté Dieu, a mis Dieu en droit d'être en colère contre moi. Et quand je fais, je me répands, je rétablis et je m'engage avec l'aide de Dieu. C'est vrai, je n'aurai pas nécessairement la victoire dans tous les cas, mais je m'engage avec l'aide de Dieu. Je restaure par la repentance. Je restaure par le retour à l'obéissance de la parole de Dieu, à la discipline spirituelle. Mes amis, on a besoin d'être disciplinés aujourd'hui pour servir Dieu, pour être consacrés à lui. Autant le peuple à l'époque était perdu. Vous savez, l'idolâtrie entraîne à un effet de boule de neige en cascade. Premier effet, d'abord on s'éloigne de Dieu. Deuxième effet, on tombe dans la confusion. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien. Vous avez vu le peuple? On lui dit, alors choisissez. Le peuple est là. Dieu. Ils ne savent plus. Ils sont dans la confusion. Ça, c'est le problème de l'idolâtrie. Mais le troisième problème qui est plus grave encore, c'est qu'on tombe dans la fausse religion. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est chrétien. On croit qu'on sert Dieu. Alors qu'on est à l'ouest. On est du côté obscur, comme on dit dans Star Wars. On est de l'autre côté. On est de l'autre côté. On croit qu'on est avec Dieu, mais on n'est pas avec Dieu, on est loin de Dieu. Combien n'y a-t-il pas de chrétiens qui s'inventent une spiritualité? Qui finissent par dire, bah oui, mais moi je crois à ma manière. Rétablissons l'autel. Première chose pour que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la consécration. Il faut travailler sans cesse. Il faut se concentrer sur notre relation avec Dieu. Pas sur les règles, les lois. Vous savez comment, de plus en plus, je vous le dis, la dimension, la façon de vivre notre nouvelle alliance avec les règles de l'ancienne alliance, c'est très dangereux. Parce que ça nous conduit à des situations compliquées, très difficiles à assumer en tant que chrétien. Notre relation avec Dieu, nous devons apprendre à garder notre connexion avec Dieu. Ça se fait avec la prière. Ça se fait avec le temps qu'on passe avec Dieu. Ça se fait avec la lecture de la parole de Dieu. Ça se fait avec une variation dans notre vie de prière. Les gens ne prient que pour les problèmes. Seigneur, waouh, il y a des problèmes. Alors je prie. Est-ce qu'on prie parfois juste pour adorer Dieu? Est-ce qu'on prie parfois juste pour être avec Dieu? Juste être avec lui, sans chercher à lui raconter nos misères. Est-ce qu'on prie pour louer Dieu? Trouver des mots pour dire, Seigneur, waouh! Est-ce qu'on prie pour dire, Seigneur, aide-moi à grandir spirituellement, à être de plus en plus le chrétien selon toi? Pas selon moi, parce que humainement, si je dois m'évaluer, je ne me trouverai que des défauts. Devant Dieu, je ne trouverai que des trucs qui ne vont pas avec moi. Mais si je dis, Seigneur, selon toi, pas selon moi. C'est ça la démarche d'Élie. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe au temps d'Élie? C'était le temps où il y a une certaine apostasie, un éloignement de Dieu. Pourtant, ce qu'Élie cherche, c'est le réveil spirituel. Il cherche à ce que le peuple, à nouveau, reparte avec Dieu d'une manière dynamique. Et voilà une solution, rebâtir l'autel. Deuxième solution, verset 40, il va faire mourir les prêtres de Baal. Il va les faire tous égorger. Vous allez me dire, votre Bible, monsieur Boula, est vraiment remplie des histoires trash. C'est quand même pas normal. Nous sommes au 21e siècle, on n'égorge plus les gens. Enfin, on les tue proprement quand même, voyons, hein. On va pas les égorger, on va peut-être les mettre, on va les inoculer un truc pour les faire mourir, ou je sais pas moi, on va encore faire dans les peines de mort, je sais plus quoi. On va les étouffer, mais on va pas les couper la tête quand même, c'est dégueulasse ce truc-là. Mais ça n'a rien à voir avec ça. La réalité, c'est que face à l'idolâtrie, c'est soit l'idolâtrie, soit nous. Si nous cédons à l'idolâtrie, c'est nous qui nous perdons par rapport à Dieu. Ou nous perdons, ou nous perdons l'idolâtrie. Il faut être sans pitié. Sans pitié. Il faut tout faire pour détruire tout ce qui, dans notre vie, entretient l'idolâtrie. Un amour exagéré. Un amour exagéré des choses. Une importance trop grande accordée aux choses. Vous savez, on peut même être idolâtre dans les principes de vie. Allez, bien sûr, on ne va pas critiquer la brave dame, Madame Taubira, qui a démissionné en France, la ministre de la Justice. Surtout que, probablement, je ne connais pas très bien le fond du problème, probablement que je serai quand même un peu plus d'accord avec elle dans les raisons pour lesquelles elle fait ça, mais enfin, j'en sais rien. Mais on peut être tellement attaché à des principes que l'on donne plus de principes, d'importance à ces principes qu'on n'écoute même pas Dieu. J'ai une jeune amie que je considère comme une petite sœur parce que je suis un des meilleurs amis de son frère. Au moment où elle se marie, je lui dis, écoute, Sarah, tu vas te marier, tu as bien lu la Bible, etc. On arrive à la question de la soumission. Oh, moi, la soumission, rien à faire. Je ne peux pas accepter la soumission. C'est ça, ou c'est pas la soumission et on vit ensemble, ou la soumission et on divorce. Tu avais beau lui ouvrir ta Bible et lui expliquer que voilà, c'est la volonté de Dieu. J'ai mis tous les gants, toutes les nuances. Rien à faire. Rien à faire. Vous savez combien de temps elle est restée dans son mariage? 3 ans. 3 ans. Au bout de 3 ans, divorce. Parce que la soumission, c'est hors de question. Elle a tenté de refaire encore sa vie avec un autre homme. 1 an. Ah non, terminé. C'est un principe. Ça ne bouge pas. L'idolâtrie est quelque chose de très subtil dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à regarder en quoi nous sommes idolâtres. Un attachement, un amour passionné pour une chose, pour une personne. Une difficulté affective à abandonner une chose ou une personne. Quelque chose que nous ne savons pas abandonner. Nous l'aimons trop, c'est trop fort. Eh bien, ça peut être de l'idolâtrie. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça, ça peut être ça. Quand nous avons une difficulté à laisser quelque chose ou à laisser quelqu'un alors que toutes les raisons du monde nous incitent à le faire, ça peut être de l'idolâtrie. Ma femme a l'habitude de faire quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas toujours la force de faire. Quand elle en a marre qu'elle fait le grand nettoyage de la maison, elle n'a pas de pitié. Hein? Les bibelots, les machins, tout, poubelle. Moi, quand on me demande de faire ça, je vous assure, oh, le petit de Jonathan, non, on va le garder. Oh, oh on va le garder. Et donc, j'ai du mal à me débarrasser de ma femme, elle s'en fout. Hein. Elle, un bibelot, souvenir, machin, comme ça, ça évoque une époque. Fou, allez, poubelle. On y va, sans pitié. Je pense que la guerre contre l'idolâtrie devrait se passer comme ça. Sans pitié. Nous nous débarrassons, nous détruisons tout ce qui, dans nos vies, fait que nous pouvons être idolâtres. Et ne nous disons pas, je suis chrétien, donc je ne peux pas être idolâtre. Faux. Faux. Je suis chrétien, je peux être idolâtre. À tous les niveaux que je me situe, petit, grand, fort, puissant, pas puissant, je peux être idolâtre. Et c'est chacun de dire, attention, par rapport à cette réalité-là, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? De même que les prêtres de Baal servaient à entretenir l'idolâtrie en Israël et que pour ça, il fallait les égorger tous, de même dans nos vies aussi, nous devons égorger, faire disparaître tout ce qui contribue, tout ce qui nous pousse à être idolâtres, tout ce qui nous met, qui fait balancer notre cœur entre Dieu et ça. Chaque fois qu'on est, on clopine en quelque sorte. On est comme ça. Ah, on aime bien cette chose-là. Et puis, Dieu, et puis, on doit pouvoir se dire, attention, cette chose-là, il faut la raser, il faut l'abandonner. Il faut l'éradiquer. C'est un fléau. Pourquoi il faut faire tout ça? C'est quoi la consécration finalement? Et moi, je trouve que, et je vais terminer avec ça, je trouve que le résumé du texte biblique qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus conclut « Toute la loi se résume dans ce commandement-là. Toute la pensée de Dieu, c'est que Dieu veut avec nous. Si nous voulons atteindre le niveau de consécration, c'est l'amour de Dieu. C'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Parce que lorsque je commence à vraiment aimer Dieu, y a-t-il quelque chose qui soit encore plus important? Demandez aux amoureux qui sont ici dans cette salle. D'autres ont déjà fait 50 ans de mariage, 30 ans. Mais je crois que la flamme est toujours restée. Mais on se souvient qu'on s'ennuyait. Hein, tu es chez quelqu'un, tu es chez un pote là. Ah, quand est-ce que j'allais rejoindre ma belle? Oh, dis, je dois partir. Parce qu'on est amoureux. On veut être tout le temps avec l'objet de son amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. La consécration, c'est ma réponse à l'amour de Dieu. C'est ma réponse pour dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, alors pour ça, je mets toute ma force, toute mon énergie, toute ma pensée, toute mon âme dans cet amour-là. Et ça, ça me permet de vaincre l'idolâtrie et tous les autres péchés. Alors, je vais terminer là, comme je l'ai dit. Au départ de l'idolâtrie, ma préoccupation, c'était tout simplement la question de la consécration. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être consacrés à Dieu. L'idolâtrie est une grosse menace. Peut-être, certainement, une des menaces qui est la plus forte pour nous. Ça touche à beaucoup de choses. Ça touche à notre ego, à notre orgueil, à notre égoïsme, à plein de trucs. Ça touche à l'exaltation de nous-mêmes. C'est un peu le trait de caractère de notre société d'aujourd'hui, qui est une société profondément idolâtre, une société qui met plus en avant le culte de la personnalité. Et quelque part, c'est là qu'il faut faire attention. C'est ça, c'est sur ça qu'il faut veiller. Deux chemins, rétablir l'autel quand on constate qu'il y a de l'idolâtrie qui s'est manifestée. Et se débarrasser d'une manière générale de toutes les racines qui peuvent susciter l'idolâtrie dans nos vies. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. À travers la vie d'Élie, merci pour ce que tu peux nous apporter comme exhortation pour que nos vies soient des vies à ta plus grande gloire. C'est vrai, nous voulons te servir, mais Seigneur, toi tu sais quelle qualité faut-il que nous rassemblions afin que lorsque tu vois que nous sommes des instruments disponibles, consacrés pour toi. Seigneur, aide-nous à ce que dans notre marche, nous veillons sur nous-mêmes et que nous nous gardions des idoles, afin que nos vies soient des vies qui témoignent ta gloire. Aide-nous à être consacrés en nous débarrassant, Seigneur, de toute idolâtrie, mais aussi en restaurant chaque fois ton autel, en revenant chaque fois à une vie d'engagement avec toi à travers la prière, la lecture de ta parole, le service chrétien. Seigneur, et ça pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.